les jardinières.
La pluie a enfin fait son grand retour cette semaine pour le plus grand bien de nos végétaux. Et après la pluie, retour au jardin et pour savoir quoi y faire, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue chez les jardinières. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Et Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci d'être avec nous ce matin.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Dans une semaine tout pile, nous serons officiellement en automne. Pour le moment, profitons de ce dernier week-end d'été. Et dites-nous Jean-Pierre, que faire ces jours entre les averses ?
Bien, pas simplement de travaux qu'on peut encore réaliser, qu'il faut profiter justement parce qu'on a encore des conditions qui sont super clémentes au niveau température et puis cette humidité derrière va faciliter les applications qu'on aura mis en place. Alors je ne sais pas si on parle aménagement paysager, gazon, pelouse, plate-bande, à l'évidence c'est la super période encore pour redensifier ces semis avec un semis à la volée par-dessus et puis une application d'engrais. On sait qu'à l'automne tout démarre, c'est vraiment vrai, on aura de l'humidité et derrière, les journées ne sont plus caniculaires et puis on n'aura pas de perte de semences et puis la nuit fraîche va favoriser ces enracinements. Et puis dans les plates-bandes, bien sûr, on a toujours un peu ces mauvaises herbes qui arrivent. C'est encore la bonne période pour les piocher, les biner, pour éradiquer ces invasives qui arrivent. Toujours des nettoyages maintenant parce qu'évidemment dans les vivaces, dans les plates-bandes de rosiers et autres, eh bien ça commence de gentiment passer et puis il y a pas simplement d'éléments à sectionner, mettre au compost pour enlever tout ce qui peut être des éléments qui ont justement fleuri, les éléments malades et puis on a encore quelques plantations qu'on peut réaliser, profiter cet automne parce que les plantations d'automne eh bien, elle démarre nettement plus facilement au printemps. À l'automne, l'humidité constante, la plante fait déjà ses racines. Et puis, on n'a pas ces problèmes de plantation tardive du printemps, où en plus, maintenant, on a des printemps qui sont vraiment chauds et puis secs. Et puis, c'est des arrosages conséquents qu'il faut réaliser. Donc, pas simplement de travail, je dirais, à l'automne. Plus intéressant à les réaliser maintenant que de les faire au printemps.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Dans quelques minutes, vous nous parlerez des greffes d'automne et vous prendrez aussi le temps de répondre aux questions jardinage de nos auditeurs. Et toujours trois possibilités pour nous les faire parvenir à ces questions. Vous pouvez nous appeler au 0900 1 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et vous aurez la chance de parler en direct avec notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet ou alors nous envoyer un SMS au 939 après avoir noté en début de message le mot jardin suivi de votre question.
Et on se retrouve juste après la pause musicale direction Le Verger. Comme vous l'a dit Brian, nous parlerons de grève d'automne.
Les jardinières.
Direction Le Verger ce matin en compagnie de notre invité Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Jean-Pierre, ce matin, vous allez nous parler de greffe d'automne. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est une greffe ?
Alors une greffe d'automne, déjà, elle s'appelle un écussonnage. C'est poser l'écusson sur un porte-greffe. C'est une action pratique qui n'est pas très difficile à réaliser. Il y a quelques mesures quand même particulières à mettre en place pour qu'on ait de la réussite. Déjà, le porte-greffe en lui-même, il faudrait pas qu'il soit très grand. On essaie de trouver des porte-greffes qui font une circonférence de 2,5 cm, mais en tout cas pas plus grand, parce que après, au niveau de la greffe, le développement de du porte-greffe pourrait venir noyer cette greffe qu'on aura simplement posée sous les écorces de ce porte-greffe. Et puis bien sûr, la mise en place du porte-greffe, ça se met déjà en place au printemps. C'est souvent des plantes en racines nue qu'on aura planté sur une ligne dans un potager ou dans un carreau. Et puis, on aura entretenu cette culture de porte-greffe durant toute l'année, jusque-là avec du binage, éviter la mauvaise herbe. Bien sûr, les avoir en état sanitaire correct, ça veut dire en tout cas pas trop de pucerons. Pour le reste, les porte-greffes, en général, c'est des plantes qui sont super robustes parce qu'on travaille souvent avec des francs, donc des porte-greffes indigènes qui ne sont pas sujets à des particularités. Pardon. Et puis, une fois que votre porte-greffe est là, eh bien, on va chercher un rameau greffon sur une variété de fruits ou de roses que vous aurez sélectionné. On va prendre des rameaux de l'année, des rameaux super bien développés. pour justement prélever des yeux. L'écusson, c'est que l'œil, c'est qu'un bouton de ce sarment qu'on va prélever sur cette branche et puis qu'on va insérer dans une fente qu'on aura au préalable créée sur ce porte-greffe. Après, dans les mesures, alors on ne met jamais les doigts sur le limbe ou la partie qu'on aura sectionnée parce que on peut avoir de la graisse sur la peau et puis cela va pas favoriser la reprise de cette greffe. Et puis une fois mise en place, alors on essaie aussi de la mettre assez bas au niveau du sol sur les porte-greffes. On la met assez bas justement pour avoir une liaison aisée après dans le développement de l'arbre. On attache cette greffe, alors il y a plusieurs manières de l'attacher. On peut le faire avec du raffia, on peut le faire avec du cellophane. Il y a plusieurs produits qu'on peut trouver dans le commerce. On prendra aussi soin d'enlever la feuille sur cet écusson, parce que si on laisse la feuille, cette feuille elle-même va continuer de transpirer par les températures qu'on a encore maintenant, et puis va nous assécher cet écusson qui ne sera encore pas tout à fait alimenté par le porte-greffe. Et puis une fois que tout cela est fait, eh bien on peut dire que vous avez fait votre greffe. On aime aussi en mettre 2 ou 3 par porte-greffe. Il est facile, c'est une greffe super rapide. C'est aussi cette manière qui fait que les pépinières suisses et même européennes utilisent pour la multiplication des arbres fruitiers et des rosiers, parce qu'elle est super rapide, elle est fiable, elle est facile à faire. Que vous dire encore sur ces greffes?
On a beaucoup de questions à vous poser.
Oui, alors à l'évidence, il y a beaucoup à dire sur la greffe. Simplement que ça se fait souvent sur des porte-greffes, puis on ne le fait jamais sur des grands sujets, parce qu'on n'arrive pas à écussonner sur des grands sujets. Alors après, si vous êtes passionné et que vous avez envie de vous entraîner, vous pouvez toujours le faire sur une branche d'un pommier, d'un prunier, avec un écusson d'un diamètre de 2-3 cm, pour vous amuser, pour voir la réussite. Mais après, de préférence, on essaie toujours de greffer sur des porte-greffes qui sont petits pour tirer en avant la végétation.
Et vous nous avez parlé, Jean-Pierre, d'arbres fruitiers et de rosiers. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de plantes qui sont couramment greffées en automne?
Alors en automne, ce qu'on peut greffer vraiment que par écussonnage, c'est aussi les cerisiers japonais, il y a les lilas, il y a les cotinus, il y a quelques arbustes décoratifs qu'on peut profiter par l'écussonnage. Mais en général, c'est vraiment que le fruitier et que le rosier.
Merci Jean-Pierre. Et puis, là on parle des greffes d'automne, mais si on n'a rien prévu, est-ce qu'on peut réaliser ces greffes au printemps par exemple?
Alors si on n'a rien prévu, je peux quand même le dire, on peut quand même aller s'entraîner dans un bord de forêt, on peut s'entraîner des fois dans les surfaces de jachère, on trouve souvent des pommiers sauvages, des poiriers sauvages, des cerisiers sauvages, et puis pour s'amuser, eh bien on peut évidemment aller s'entraîner là-dessus. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on ne peut pas inverser les essences sur les porte-greffes. Ça veut dire le cerisier, bien évidemment, faudra l'implanter sur un cerisier sauvage, pommier sur malus, sur les pommiers sauvages, et puis les poiriers pareil. Après le cognassier, c'est la même chose, on ne pourra pas inverser ces choses. Et puis, rappelle-moi la question.
Non, c'était si on pouvait faire ça au printemps, par
exemple. Au printemps, alors oui, pardon. Évidemment qu'au printemps, on peut greffer. Alors, ce sera des greffes qui seront de bois. On va les faire de mars à mai, début mai. On aura au préalable prélevé les greffes durant l'hiver. On les va conserver soit au frigo, soit dans un endroit à l'ombre, au frais, dans une surface protégée des températures. Et puis, au printemps, quand la végétation va repartir, eh bien, on va prendre ce sarment greffon qui n'aura pas du tout bougé jusque-là, parce que s'il a déjà bougé, il aura déjà épuisé passablement de réserves pour la reprise, donc il faut absolument des greffons qui n'ont pas démarré. Et puis le fait de faire cette greffe soit en couronne, soit en fente, il y a plusieurs sortes sous l'écorce, eh bien cette greffe elle est très demandeuse, parce qu'évidemment on l'amène en température, et puis le porte-greffe lui il est déjà alimenté par la sève, et puis la reprise elle est beaucoup plus facile. C'est vraiment un tout autre principe de greffe. Par contre, il faut beaucoup plus de temps pour faire une greffe de printemps qu'une greffe d'automne. Elle est aussi moins fiable. Le plot de cicatrisation est plus conséquent que l'écussonnage à l'automne. C'est une manière justement qui n'est pas très utilisée par les pépiniéristes, mais vraiment par les amateurs, les jardiniers amateurs, parce que de temps en temps, on a un pommier, puis on se dit, j'aimerais bien quand même y implanter une variété là, ou changer de variété. Et puis c'est à partir de là qu'on s'amuse un peu à faire ces surgreffages printaniers.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour vos explications très complètes. On vous retrouve dans 2 petites minutes pour continuer de parler de ces greffes d'automne.
Les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves, on s'occupe de greffe d'automne. Vous nous avez expliqué comment ça se passait. Maintenant, la greffe a été effectuée sur un pommier, par exemple. À quoi faut-il être attentif dans, je sais pas, les heures qui suivent, les jours qui suivent ?
Oui, alors une fois qu'on a implanté cette écusson sur ce porte-greffe, 15 jours, 3 semaines après, il faut passer pour éventuellement sectionner le raffia que vous aurez posé pour la tâche de la greffe, parce que sinon il y a un risque de strangulation. On peut aussi déjà contrôler cette écusson, cette greffe, donc 15 jours, 3 semaines après l'avoir implantée. Il est tout simple, le fait que le pétiole, donc le bout de feuille qu'on aura laissé, en fait, j'ai dit donc on enlève la feuille sur l'écusson pour la mise en place, parce que la feuille, elle va continuer de transpirer. Mais on enlève simplement le limbe de la feuille, et puis on laisse ce pétiole, cette ramille qui va vous lier ces deux éléments. Et puis quand on attache l'écusson, on fait attention à ne pas plier ce pétiole, parce que selon la variété de fruits, de roses que vous aurez attaché, si on attache ce pétiole avec l'écusson, il y a des risques qu'on soulève un peu l'écusson par rapport au porte-greffe. Et puis, le fait qu'il n'adhère pas totalement sur le porte-greffe, la reprise sera pas bonne. Donc, on va laisser ce pétiole libre. Et puis, 15 jours, 3 semaines après la mise en place, si ce pétiole tombe, si on le chatouille et puis qu'il chute, eh bien, c'est que la greffe, elle est déjà bonne. Et puis, évidemment, s'il reste collé après cet écusson, eh bien, c'est que tout a séché. Et puis, cette greffe-là, en question, elle est négative. Mais comme j'ai dit, on en met en 2 et 3, parce que c'est très rapide et très facile d'implanter des greffes sur le porte-greffe. Donc il n'y a pas de risque d'avoir de perte de porte-greffe, c'est facile d'avoir de la réussite. Et puis après, la suite à donner, donc on va couper ce lien qui aura fait la tâche de l'écusson. Après, sur l'hiver, on va venir couper le porte-greffe, l'ensemble du porte-greffe. On va laisser un petit bâtonnet de 10-15 cm en dessus de cette greffe, ça s'appelle un onglet. Pour le reste, on va les évacuer, ces éléments de bois. Et puis au printemps, notre greffe, elle va démarrer. Et puis, comme elle va démarrer un peu à l'équerre, on va justement se servir de cet onglet, ce bout de bois qu'on aura laissé en dessous de cette greffe, pour rabattre cette greffe sur cet onglet, justement pour avoir un super alignement de tronc, parce que sinon, vous auriez un angle qui serait donné, puis ce serait pas joli. Et puis après, la greffe, c'est aussi un élément qui est un peu fragile au début, et puis simplement du vent ou un oiseau pourrait venir vous la casser. Donc le fait de l'avoir attaché va vous garantir cette résistance. Et puis chemin faisant, durant l'été prochain, eh bien, à partir du mois de juin, début juillet, on va venir enlever cet onglet sur lequel cette greffe aura été attachée, parce que on va pas la laisser, sinon il y aurait une mauvaise liaison de la greffe sur ce porte-greffe à la base. On aime bien les sectionner en mai, juin, juillet, parce que ça va permettre une cicatrisation sur l'automne déjà de cette plaie-là, et puis votre greffe elle-même sera maintenue par sa résistance. Et puis on va évidemment lutter, parce que c'est une lutte, on peut le dire, tous les rejets qui arrivent sur le porte-greffe, il faudra les enlever au fur et à mesure qu'ils arrivent, parce qu'une greffe, il faut comprendre, c'est vraiment un stop. Et puis la sève, eh bien, elle aime pas le prendre, ce stop, et puis elle va chercher à développer une quantité de ramification sur le porte-greffe sans trop alimenter cette greffe. Donc avec un couteau, un greffoir, on va vraiment prendre soin de débourgeonner dans lui tous les rejets qui viendront sur le porte-greffe. Et puis sur la greffe, eh bien on va maîtriser le développement des branches latérales. On aime en avoir un peu, pas trop, pas de trop gros diamètre. Il faut savoir que chaque feuille est une usine de sève, et puis plus on aura de feuilles sur la greffe, eh bien le porte-greffe va se développer. Il faut aussi dire qu'on peut avoir des pousses de 2 mètres, 2,50 mètres en une année sur une greffe posée maintenant, parce qu'il y a beaucoup de vitalité, et puis ça se développe bien. Et puis bien sûr, on va faire aussi de la lutte contre les parasites. C'est souvent des jeunes pousses qui sont envahies de pucerons, qu'il faudra quand même intervenir avec un phyto ou du savon noir ou du purin d'ortie, c'est égal. Il ne faut pas laisser se développer le puceron, sinon ça va nanifier les pousses, et puis vous n'aurez pas un super fruitier derrière.
Merci beaucoup Jean-Pierre, c'est vrai que ce sujet sur les greffes d'automne, il est très intéressant et très vaste. On va en reparler encore un petit peu juste après la pause météo et inforoute. Et on n'oublie pas vos questions qui viendront juste après.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi matin. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. On va encore parler un peu de greffe d'automne, mais tout d'abord, on va vous rappeler, Brian, comment nous faire parvenir vos questions jardinage.
Vous avez trois possibilités pour nous poser vos questions, soit par téléphone, pour parler directement avec notre spécialiste. Ça se passe au 0900 70 20 20. Vous avez aussi le choix du formulaire disponible sur notre site internet. Vous aurez la chance de joindre une photo à votre question. Et puis sinon, vous pouvez aussi choisir le SMS. Vous tapez 939, donc c'est le numéro. Et puis vous commencez votre message par jardin, un espace et votre question. Vous terminez avec votre nom, c'est toujours plus sympa comme ça. Voilà les trois possibilités pour nous poser des questions.
Jean-Pierre, en première partie d'émission, vous nous avez parlé de greffe d'automne, appelée aussi écussonnage. Alors, on aimerait quand même savoir quels sont les avantages de faire cohabiter deux individus sur un même arbre. Est-ce que ça ne serait pas mieux si chacun avait sa place ?
En pépinière, on peut s'amuser à faire des petites essences, des petits fruitiers avec deux ou trois variétés. Mais sur le principe, on n'aime pas, parce que chaque variété a un développement différent. Si je prends par exemple une extrême, la variété Boscope dans les pommes, c'est une variété qui va se développer avec des sarments de 50-80 cm sur une année. Et puis si vous prenez une pomme rainette ou bien une rose de Berne, les sarments vont faire que 30 cm. Alors évidemment, avec le temps, il y a une grosse différence de développement qui se crée sur ces sujets. Donc on se permet de faire des petits sujets avec deux ou trois variétés pour l'amateur qui aura plaisir à découvrir cela. On va aussi chercher à mettre des variétés qui s'adaptent un peu par rapport à ce développement. Mais sur le principe, sur le général, on met qu'une variété de fruits par porte-greffe et puis il est plus intelligent de planter deux variétés enracinées que de mettre deux variétés sur un même sujet. Après, l'amateur, il peut s'amuser à surgreffer quelques branches sur son sujet chez lui, mais sur le principe, dans le commerce, c'est rare de trouver ce genre d'éléments.
Et Jean-Pierre, on a beaucoup parlé d'arbres fruitiers, de greffe sur les arbres fruitiers. Est-ce que la technique est la même pour tous les arbres fruitiers ?
L'écussonnage est de toute façon le même principe pour tout ce qui va se greffer en écussonnage. Alors on a dit, hein, il y a surtout le rosier, le fruitier, parce que économiquement c'est super facile et rentable et fiable. Après, pour ce qui est des greffes printanières, eh bien c'est toujours des greffes de bois. Oui, je dirais que c'est toujours à peu près les mêmes principes. Par contre, chaque période a sa greffe, on peut dire ça comme ça.
Merci Jean-Pierre. Et puis pour terminer avec ces greffes d'automne, si des gens nous ont écoutés et se disent « Ah ouais, c'est une super idée », c'est quoi le conseil, le dernier conseil que vous leur donneriez ?
De ne pas se couper déjà, parce qu'en général, on travaille...
C'est l'arbre qu'on greffe,
c'est quand même vrai. Je sais, bien sûr, mais c'est vrai qu'on travaille avec des petits éléments, hein, c'est un œil, hein, c'est juste un bourgeon hein, sur lequel on va travailler, donc c'est super délicat. Il faut des couteaux qui soient quand même super aiguisés pour ne pas effiler et puis blesser le cambium, donc la partie végétative qui devra se lier sur le porte-greffe. Alors je dirais vraiment, parce que c'est courant dans les pépinières d'avoir une trousse médicale pour ne pas se... Oui, ça arrive fréquemment. Donc l'amateur qui va s'amuser à écussonner, vraiment être attentif à ça. Et puis après, pour le reste, non, c'est plaisant. Ça peut être intéressant, c'est des expériences faciles à faire. Et puis si ça rate, c'est pas dramatique non plus. Ce que je n'ai pas dit non plus, donc l'écusson, il faut toujours l'introduire du haut en bas et puis enlever encore la languette qui peut rester toute. Toutes les parties de l'écusson devront être liées sur le porte-greffe et puis ce qui arriverait sur une partie d'écorce du porte-greffe, là, il faut sectionner pour éviter les dessèchements.
Merci Jean-Pierre. Et puis bien sûr, rappeler aux auditeurs que s'ils ont des questions sur les greffes, toujours se tourner vers des professionnels comme vous. Merci.
Merci. Et merci beaucoup Jean-Pierre. Ce que l'on va faire juste après une petite pause musicale, c'est répondre aux questions de nos auditeurs.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Après avoir parlé de greffe d'automne, il est temps de répondre à vos questions. Vous qui nous écoutez, rappelez rapidement comment faire. Vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 pour parler directement à Jean-Pierre. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question. Vous nous l'envoyez au 939 ou alors vous pouvez remplir le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières, comme l'a fait Christophe Brian.
Exactement, Christophe de Kourou qui nous pose cette question. Bien qu'elle soit protégée en des serres plastiques, je constate depuis environ 15 jours que mes tomates peinent à mûrir malgré le temps ensoleillé et chaud de ces derniers temps. Pourquoi ?
Oui, bonjour Christophe. Effectivement, sur la photo, on voit que l'ensemble du plant n'a pas beaucoup de tomates rouges. Et puis, alors je ne connais pas trop la situation chez vous. Vous parlez d'une serre plastique. À l'évidence, s'il fait trop chaud dans votre serre, ça va bloquer la maturité de vos fruits de tomates. Parce que le trop chaud va faire souffrir ce plant et puis va le bloquer. Donc ce qu'il faut, c'est en tout cas ouvrir les portes, lui faire du courant durant la journée, alors que la nuit, vous fermez les portes de cette serre, bien sûr, c'est intéressant, mais pour le jour, vraiment mettre de la ventilation pour tirer un peu plus bas la température de la serre, parce que sinon, sous du plastique, en plein soleil, bien évidemment, la température doit monter très haut. Et puis sinon, pour le reste, le plant lui-même, il n'a pas l'air de souffrir plus que ça. Ça pourrait peut-être être aussi une carence d'éléments nutritifs. On voit que c'est une terre végétale qui n'est peut-être pas très très riche, mais moi je dirais que en tous les cas donner de la ventilation dans la serre devrait favoriser cette maturité. Et puis si vraiment, eh bien plus tard vous pouvez les récolter, les mettre dans un cajot et puis les mettre sur une plateforme ensoleillée. En général, on arrive encore à tirer une bonne partie de la récolte.
Jean-Pierre, vous avez parlé d'éléments nutritifs pour la terre. Est-ce que il pourrait encore le faire ou ça ne vaut pas la peine, c'est un peu tard?
Là, ça vient tard, parce que la tomate s'est bien développée, et puis ce qui manque, c'est juste le petit rien pour la maturité du fruit, et puis le temps que la plante absorbe l'élément nutritif que vous aurez mis sur sol, qui devra encore, se transmettre par racine, on sera trop tard, ce sera du lessivage durant l'hiver de cet élément nutritif, on est trop tard. Faudrait plutôt mettre ces engrais ou ces composts ou ces fumiers vraiment au printemps, pour pousser un maximum la végétation au démarrage, et puis justement compléter, enfin, que ça complète pour la maturité à l'automne.
Merci Jean-Pierre. On va rester dans le potager, mais on va parler carottes avec cette question de Vanessa de Couvet. J'ai encore pas mal de carottes dans mon jardin que je récolte selon nos besoins. J'aimerais savoir jusqu'à quand je peux les laisser en terre et puis ensuite, si je dois les sortir, comment les conserver. Merci.
Oui, alors pour ce qui est de la carotte, la récolte, on peut la faire tout pendant que le terrain n'est pas gelé et puis qu'on n'a pas des grands froids, des grands gels. En pleine terre, elle va se conserver sans problème du moment qu'on a passé ces grands froids. Je dirais qu'à partir de mi-octobre, couvée, il va falloir quand même commencer de s'énerver à les récolter. Pour la conservation, ce qui peut se faire, c'est de les mettre dans un terreau un peu humide, dans un tonneau, mais justement à l'abri des grands froids. Ou dans une cave fraîche, elle va se conserver sans problème. Mais la récolte en pleine terre comme elle est là, pour le moment, elle ne risque rien.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On a encore une troisième question à vous poser. Bonjour, j'ai remarqué que sur les tiges de mes patates, il y a des espèces de petites tomates toutes vertes et toutes dures. Peut-on les manger ou est-ce des graines à planter qui donnent des patates ? Bonne journée.
Oui, alors bien sûr, on sait que la patate, le feuillage va se mettre à fleur et puis évidemment chaque fleur va produire ou pourrait produire ce genre de petite patate. J'imagine ça porte un nom précis, je suis pas le spécialiste de la patate. Je pense pas que ça puisse se manger parce que j'imagine que ça doit être très herbeux, amer, aigre à essayer. C'est de toute façon pas nocif. Mais c'est évident que c'est la graine de la patate. C'est ce que les multiplicateurs de nouvelles variétés vont s'amuser à récolter parce qu'ils auront fait des croisements au préalable avec les fleurs et puis ils vont remettre en stratification, donc en germination, les fruits de ces petites boules de patates pour développer de nouvelles variétés de patates. Mais à l'évidence, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faille consommer parce que ça ne doit pas être très bon.
Vous nous redirez si jamais Raphaël de Renan, ce que vous avez goûté. Voilà, merci Jean-Pierre. On va se retrouver dans un instant pour répondre encore à quelques questions de nos auditeurs.
7h, 8h, les jardinières.
Presque 7h52 chez les jardinières, on a encore le temps de répondre à une question que nous venons de recevoir, Brian.
Et oui, c'est Lia qui nous pose cette question. Mes courgettes ont des taches blanches sur leurs feuilles, comment y remédier ?
Elle a joint une photo à sa question où on ne peut pas nier que ces feuilles de courgettes soient bien blanches.
Oui, à l'évidence. Alors, il faut savoir que tout ce qui est de courge, concombre, cornichon, c'est des sujets qui sont sujets à l'odium. Et puis l'odium, eh bien, c'est justement ce champignon qui vient blanchâtre à cette période sur le feuillage, qui attaque ce feuillage. On peut pas faire grand chose parce que, bien sûr, traiter maintenant, on a les légumes au-dessous, les fruits en dessous qu'on doit ramasser, récolter. Ça n'impacte pas du tout le fruit, parce que à cette période, de toute façon, il est développé, et puis on est en phase plutôt de récolte que de production de nouveaux fruits. Donc, le feuillage, même s'il est atteint, il va plus beaucoup produire d'éléments nutritifs pour la fin de maturité des légumes. Mais on peut rien faire. À cette période, en plus, on est septembre. Premier gel, de toute façon, tout ce feuillage va disparaître parce qu'il supporte pas du tout les négatifs au niveau des températures. Et puis là, c'est le gros moment de ramasser vraiment que des fruits et puis ne pas s'inquiéter de ces problèmes de feuillage, parce que de toute façon, on peut pas le combattre. Ça ne vaut pas la peine. Même si vous avez déjà des attaques en juin ou début juillet, peut-être on peut le faire mécaniquement, simplement en sectionnant les éléments qui seront le plus atteints. Mais l'odium va réapparaître sur toute façon les autres feuilles au cours de la saison.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On va peut-être rapidement terminer avec une petite question générale. Vous nous avez parlé de plantations d'automne qui sont bien parce qu'elles s'enracinent plus facilement, elles seront plus vigoureuses. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on pourrait planter par exemple ce week-end ?
Alors, on peut encore planter, surtout dans les potagers. Pour revenir sur le potager, il y a les brocolis, les choux chinois, il y a les choux raves, on peut planter les ails, les échalotes. Ça, c'est toutes des super périodes maintenant pour les mises en place, hein. C'est des bisannuels en partie, et puis il faut les planter à l'automne pour passer l'hiver, pour les avoir au printemps. On profite aussi des fraisiers, c'est intéressant, parce que sinon, on connaît les problèmes printaniers, on les a cités tout à l'heure. La laitue d'hiver, bien sûr. Et puis sinon, dans les semis, on peut encore vraiment profiter de faire les semis de doucette, le persil. On profite aussi de cultiver, d'entretenir ce potager. On met volontiers des engrais verts. Maintenant, c'est devenu de coutume de mettre des moutardes, c'est égal. Tout ce qu'on trouve dans le commerce, c'est en général des légumineuses qui se développent très vite à l'automne, qui font une couverture d'automne, qui lient les azotes à l'automne pour éviter d'avoir du lessivage durant l'hiver. Donc, tous les carreaux qui seront vides dans votre potager, ça vaut la peine de les ensemencer avec quelque chose qui sera facile à éradiquer au printemps. Et puis pas, par exemple, du trèfle ou des plantes qui auront trop de problèmes de stock grainier derrière.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre visite ce matin aux jardinières. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Passez un bon week-end et à très bientôt chez les jardinières.
Ben, merci tout le monde, bon week-end à tout le monde et puis bon bonheur dans ces potagers.
Merci beaucoup Jean-Pierre. La semaine prochaine, nous vous proposerons une émission un peu spéciale. Nous vous parlerons de jus de pomme. Nous serons en compagnie de Julien Auroy, membre fondateur de la coopérative de Labor à Valangin dans le canton de Neuchâtel. Il nous dira tout sur ce breuvage de la pomme au jus de pomme. Donc émission à ne pas manquer. Et puis pour vos questions jardinage plus précises, nous y répondrons sans problème la semaine d'après en compagnie de nos spécialistes. Il nous reste, Brian, à vous souhaiter un bon week-end.
Et bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Et à très vite chez les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.